Nous voici aux portes de Noël. C'est très beau et c'est un temps qui est vraiment très précieux. Il y a quelque chose de magique dans l'air à Noël. C'est difficile de dire ce que c'est, mais notre cœur, lui, le ressent profondément en nous, même si on n'arrive pas à l'énoncer. C'est un peu comme lorsque Élisabeth reçoit Marie qui vient chez elle pour l'aider. Eh bien, c'est, au-delà de sa conscience de femme, c'est Jean-Baptiste dans son ventre qui s'agite joyeusement. C'est lui qui annonce déjà, comme il le fera plus tard, eh bien, la venue du Messie. Et Noël, c'est pareil, c'est pour nous. Il y a quelque chose qui se joue bien au-delà de notre conscience, c'est une grâce, une présence, plus exactement, Dieu avec nous. La foi, c'est la reconnaissance des Écritures, c'est la grande leçon de ce soir. Oui, il y a ces Écritures mystérieuses, fermées, et puis qui s'ouvrent dès que Jésus-Christ paraît. L'oracle de l'Emmanuel, c'est arrivé 8 siècles avant notre ère. Et sa réalisation a mis beaucoup de temps et c'est resté toujours très mystérieux. Mais Dieu annonce toujours ses desseins. Ça, c'est une règle immuable, même dans notre vie personnelle. Dieu se fait, lorsqu'il veut changer quelque chose, lorsqu'il veut faire un grand don, eh bien, il prépare les âmes à le recevoir. Sinon, il risquerait bien de voir son cadeau rester à la porte des âmes. Et il ne se donne pas la peine de le faire s'il voit que la préparation ne mène à rien. Et ça, c'est très important. D'où la vocation de Jean-Baptiste. Préparer les chemins du Seigneur. Et Dieu qui annonce toujours ses desseins, eh bien, est reconnu dans ses projets, eh bien, par la foi. C'est par la foi qu'on reconnaît le projet de Dieu. Alors, l'oracle de l'Emmanuel, formulé par le prophète Isaïe, a eu un accomplissement historique, mais il était complètement imparfait. C'est l'époque où Israël, le royaume d'Israël, était divisé en deux. Et voilà que le royaume du Nord, le principal, s'était allié à son voisin, le roi de Damas, pour faire le siège de Jérusalem, pour obliger le roi de Jérusalem, et même le remplacer, parce que le roi s'obstinait, eh bien, pour l'obliger à faire front commun contre la Syrie. Vous voyez, on est dans la géopolitique de l'époque. La Syrie, le gros royaume, aussi gros que l'Égypte. Et eux étaient alliés à l'Égypte contre la Syrie, pour leur grand malheur. Le prophète Isaïe, eh bien, dit au roi de Jérusalem, dont il est le conseiller en quelque sorte, de résister, de ne surtout pas mettre les pieds dans une souricière pareille. Et le roi de Jérusalem va à Akaz, va accepter ce conseil. Avec foi et en même temps par une prudence humaine ou parce qu'il ne savait pas quoi faire. Enfin, il y a tout un mélange, mais il y a un peu de foi quand même. Et le prophète Isaïe insiste, « Je vais te donner un signe. » Akaz, vous voyez, un homme prudent, même un peu lâche, il ne veut pas trop s'engager vis-à-vis de Dieu. Si Dieu lui donne un signe, il sera tenu de tenir ses propres promesses. Donc il veut rester un peu en deçà, quoi. C'est son caractère. Isaïe le force, au nom de Dieu, à entrer dans les projets divins, parce qu'il n'y a pas de neutralité possible, ou bien il va s'allier bêtement au royaume du Nord, ou contre la Syrie, ou bien il va écouter le Seigneur et les oracles d'Isaïe. Donc ça, c'est une réalisation imparfaite, parce qu'effectivement, la femme d'Akaz va concevoir un fils, et ce fils va connaître un règne heureux, prospère, et donc on peut dire que la réalisation a été faite. Mais elle est très imparfaite. Elle nous parle d'une autre réalisation que seul le Christ peut expliquer, peut révéler. La venue du Christ, la venue de Dieu, révèle bien des choses qui étaient cachées, qu'on ne comprenait pas, dans un brouillard. On voulait considérer que c'était fait, ou bien on considère que ça viendra à la fin des temps seulement. C'est impossible à mesurer la volonté de Dieu, mais il faut être attentif. Veillez et priez, disait Jésus. Marie, elle précède Joseph lui-même, puisqu'elle est, elle a déjà reçu l'Annonciation avant que Joseph n'en soit averti. Elle a déjà conçu le Verbe de Dieu, elle a déjà accepté, ouvert son cœur au Très-Haut. Et Marie, c'est pas seulement quelqu'un qui accepte de suivre Jésus, elle devient elle-même un signe messianique, parce qu'elle est la Vierge qui va enfanter. C'est cette Vierge, c'est beau d'ailleurs de voir dans l'évolution prophétique, au départ c'est écrit en hébreu la Bible. Donc c'est le terme Alma, c'est la jeune femme. Jeune femme, ça ne veut pas dire vierge systématiquement. C'est une jeune femme, voilà, qui est enceinte. Quand, vers la fin, vers le 3e siècle de notre ère, à Alexandrie, les Juifs d'Alexandrie traduisent la Bible hébreu en grec, eux vont utiliser le mot vierge. Et ça, c'est, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils le font, ils sont guidés par l'Esprit Saint mystérieusement. Et ce n'est plus une jeune femme seulement, c'est une vierge. Et Marie va donner à cette virginité toute physique, qui n'a pas grand intérêt en soi, un sens magnifique, le sens de la virginité spirituelle. Elle devient vraiment ce signe messianique qui apparaît dans l'Apocalypse au chapitre 12. Et il est tellement important. Marie a vraiment une mission inimaginable. Bien sûr, historiquement, il y a 2000 ans, elle ne s'en rendait pas compte, l'humble Vierge de Nazareth. Mais maintenant, toute l'Église le sait et toute l'Église la célèbre. Dieu se présente comme un sauveur. Non, je précise, tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui signifie « Dieu sauve ». C'est le salut. Et pour recevoir Dieu, la leçon, c'est il faut prendre conscience du péché. C'est toute la mission de Jean-Baptiste. Convertissez-vous. Et après, Jésus enverra ses disciples et enverra dire partout où il passera, convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Pour accueillir Dieu, il faut d'abord se convertir. Et ça veut dire mesurer les effets de la chute originelle du péché, donc, qui nous afflige tous. Un homme, une femme, insensible au mal, insensible à la notion de péché, ne peut pas accueillir Dieu. C'est ce type de croyant, s'il y en a, et il y en a malheureusement, est voué à se perdre, à être dilué dans le monde, exactement comme le royaume du Nord. Ce royaume du Nord dont je parlais, là, je ne vous ai pas dit la suite, eh bien, ils n'ont pas pu prendre le royaume du Sud, ils ont fait l'assaut, mais ça a servi à rien, le siège n'a conduit à aucun résultat, parce qu'entre-temps, le roi d'Assyrie a débarqué. Et il les a tous écrasés, il a occupé ce royaume du Nord, et il a exilé toute la population. C'est l'image d'un exil spirituel, d'une perte de la foi, où les croyants d'antan ont été dilués dans un monde païen, où ils ont adopté les mœurs de ce monde, et on ne les a jamais revus. Il faut prendre garde que pour recevoir Dieu, il faut être préparé. Et la condition, c'est de se savoir objet d'un salut, ce qui signifie qu'il y a un enjeu qui pourrait bien être notre perte tout autant que notre rachat. L'expérience de Noël à laquelle nous sommes appelés, elle est comparable à celle des mages. Nous devons, pendant l'Avent et jusqu'à ce jour de Noël, suivre l'étoile comme les mages. Et l'étoile, c'est l'Esprit Saint. C'est cette intuition en nous, comme Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère, qui nous dit, qui nous met en mouvement, qui s'agite en quelque sorte joyeusement en nous, et pour nous réveiller, pour nous donner une conscience, et qu'il faut se mettre à chercher Dieu. C'est la bonne nouvelle, chercher Dieu, comme les anges qui apparaissent aux bergers. On vient vous annoncer une bonne nouvelle. Et les bergers se mettent en route. Ils ne savent pas trop où ils vont arriver, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver, mais ils finissent par le découvrir, et très vite. Il faut laisser le Christ naître en nous. Il y a un très beau commentaire de Jean Tolleur, donc un dominicain du XIVe siècle, qui, sur les trois naissances de Jésus, les trois naissances du Verbe de Dieu. La première naissance, c'est avant la création du monde. C'est dans la Trinité, c'est dans l'éternité. Le Père engendre le Fils, mais de toute éternité, ce n'est pas une naissance avec un commencement. C'est plutôt un nom qui est donné au Verbe de Dieu, celui qui est engendré par le Père. Le Père se connaît, et par cette connaissance, il se contemple comme dans un miroir, « Qui m'a vu a vu le Père ». Jésus, c'est la sagesse de Dieu, le Père qui se connaît. Et alors, par cette connaissance, le Père et le Fils s'aiment, et c'est la spiration, dit-on, de l'Esprit Saint. Dieu s'aime, Dieu se connaît. Il est le seul à pouvoir le faire, sans devenir un espèce d'égotique infini. Nous autres, si nous avions cette capacité de trouver en nous-mêmes une telle autosatisfaction, qu'on appelle béatitude, on deviendrait complètement fou et insupportable, parce que c'est au-delà de notre nature. Dieu, lui, le peut. Il ne trouvera jamais une connaissance ni un amour qui puisse égaler celui qui lie les trois personnes de la Trinité en dehors de lui. Mais Dieu est si bon, c'est la seconde naissance, qu'il prend chair de la Vierge Marie, il y a 2000 ans de cela, et pour être avec nous, mais pour nous sauver, pas seulement pour être avec nous comme au commencement du monde, où Dieu se promenait à la brise du soir dans le jardin d'Éden. Là, il s'était vraiment l'Emmanuel. Là, il s'agit de nous sauver. C'est quand même un peu différent comme tonalité. Et puis la troisième naissance du Verbe de Dieu, nous dit Jean Tolleur, c'est dans nos âmes, au fond de nos âmes, dans la fine pointe de l'âme, au plus profond de nous et dans notre conscience la plus profonde, notre personnalité, c'est là que le Verbe de Dieu vient naître, c'est là que nous, de là que nous entendons ces appels confus à une joie renouvelée. Alors, pour entrer, pour permettre au Verbe de Dieu de naître en nous, comme il est né dans la crèche, adoptons les sentiments de la Vierge Marie. Soyons comme elle, répondons exactement comme elle a répondu à l'Annonciation pour accueillir cette joie. C'est Noël, c'est toujours cette joie qui nous est proposée. Alors ne boudons pas dans notre coin, mais retrouvons la Sainte Famille et goûtons cette joie qui n'a pas d'égal.